Au-delà du live, le décryptage mensuel de l'actu numérique.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 36 d'Au-delà du live, votre revue d'actualité mensuelle sur le numérique. Je suis accompagné de mon compère de toujours, je suis accompagné d'Alain Garnier. Alain, comment vas-tu?
Bah écoute, super Benoît, écoute, on est en fin d'année, écoute, ça fait tellement plaisir là, on sent l'atterrissage. On va voir si justement l'esprit de Noël plane sur ce podcast au-delà de Noël.
Exactement, très heureux comme d'habitude de t'avoir à mes côtés pour ce qui est le dernier épisode de 2023. Hein. Vous vous en doutez, chers auditeurs, au moment où on tourne cet épisode, on est très très proche des fêtes de fin d'année, ça y est. Et bah forcément, voilà, vu que c'est le dernier tour de piste de l'année, on vous a préparé un épisode riche, riche en rebondissements, riche en actualité. Alors, à la une de ce 36e épisode.
Riche en cadeaux,
riche en cadeaux, bien sûr. Voilà, on aime faire des cadeaux. On est du genre généreux dans au-delà du live. Donc, de manière générale, on l'est d'ailleurs. Je tiens à le souligner. C'est pas parce que c'est les fêtes de fin d'année. Mais là, forcément, l'occasion était trop belle. Alors, qu'est-ce qu'on vous a préparé pour ce 36e épisode? On vous a préparé pour le sujet à la une un dossier complet sur un sujet qui est plus que d'actualité. C'est, je pense, le sujet numérique de 2023. C'est l'intelligence artificielle, bien sûr, qui a secoué l'actualité numérique tout au long de l'année. Comme jamais auparavant. On ira ensuite voir du côté de l'Union Européenne, dont on parle souvent en ce moment au-delà du live, donc l'Union Européenne qui enchaîne les bras de fer contre les plus grosses entreprises mondiales de la tech. Hein. L'Union Européenne, en ce moment, c'est vraiment un catcheur. Hein. Elle fait des prises, elle défend les textes qu'elle a déployés cette année, il y en a eu certains. On parlera ensuite du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Voilà, une relation qui est d'autant plus importante dans le cadre des éditeurs de logiciels que nous sommes. Hein. Alain, je pense que tu pourras nous en parler. C'est vraiment un sujet vraiment passionnant. Et on terminera cet épisode avec un petit florilège des startups à surveiller de près en 2024. Avant, bien sûr, le traditionnel sujet mystère que je partagerai à Alain en fin d'épisode. Voilà pour le programme. Au-delà du live, épisode 36, Alain, c'est parti.
C'est parti.
Alors, donc, notre sujet à la une méritait bien un dossier complet, clairement, tant il a suscité toutes les émotions et toutes les réactions possibles en 2023. L'IA est dans tous les esprits, au cœur de tous les débats. Certains sont enthousiastes, d'autres crient à la fin prochaine de l'humanité. D'autres appellent au calme aussi, il faut le préciser, hein, une analyse plus fine de la situation. Je pense notamment à Arnaud Rirol de l'Echo qu'on avait invité lors du JSPOD Summit qui disait voilà, calmons-nous, mesdames, messieurs, tout ça va bien se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que personne n'échappe à l'intelligence artificielle. Et je tenais pour ce dernier épisode de l'année faire un peu un bilan du sujet avec un objectif non pas de prédire l'avenir, bien sûr, mais de donner aux auditeurs, Alain, je pense que tu seras d'accord, la meilleure visibilité possible sur ce qui est en train de se passer parce qu'il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de rebondissements, c'est un peu le bazar. Donc voilà, histoire de vous donner un peu une meilleure vision du sujet si c'est possible. Alors ce que je te propose Alain, c'est que le sujet est riche bien sûr, hein. Donc je te propose de faire d'abord un résumé rapide de la situation pour lancer le sujet et je te laisserai rebondir ensuite. Alors si on doit faire un résumé vraiment rapide, je vous laisserai bien sûr vous renseigner à droite à gauche, l'IA existe depuis des années déjà bien sûr, mais cette année OpenAI, donc une entreprise américaine, a dévoilé ChatGPT 4, si vous avez un accent anglais aussi calamiteux que le mien, une IA conversationnelle dont les performances ont sidéré quand même pas mal de monde, qui a été mis à la disposition du public. C'est un outil qui a fait parler de lui aux quatre coins du monde, qui a placé l'intelligence artificielle au cœur de tous les débats et de l'actualité numérique de par son avancée, son impact et l'usage qu'elle permet. Et aussi, bien sûr, par rapport aux questions sociales et éthiques qu'elle soulève. On pourra peut-être y revenir. Du côté, d'un point de vue purement entrepreneurial, d'un point de vue business, d'autres entreprises, forcément, ont emboîté le pas à OpenAI. Microsoft, qui est le premier actionnaire de l'entreprise, a augmenté ses investissements. Meta a dit, le métaverse, c'est passionnant, mais en fait, je préfère aller voir du côté de l'intelligence artificielle. Google aussi a accéléré le rythme et a dévoilé dernièrement son propre modèle, Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment on dit. Et on a aussi, en France, Xavier Niel, notre Xavier National qui a lancé.
On dit Xavier Niel.
Xavier Niel. Excusez-moi, Xavier c'est vrai Niel. Que. je ne sais pas s'il prononce son nom de famille comme ça, mais en tout cas, si je le croise un jour, je le dirai comme ça, ça le fera rire. Donc Xavier Niel qui a lancé QTAI, du coup, qui est un. Ou QAI, un laboratoire de recherche dédié au sujet. Et on a également, plus récemment, Mistral AI, qui est sans doute la start-up française la plus en vue du moment. sur le sujet. Bref, la course est lancée. Voici un peu le programme du côté des outils et des acteurs. Voilà la situation. Là où j'aimerais te passer le flambeau, Alain, c'est pour éclairer nos auditeurs sur la question des usages et finalement des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses, etc. Si on prend un peu de recul, comment est-ce que toi tu vois la chose par rapport à la situation actuelle et surtout par rapport à l'avenir?
Ben, tu as bien dressé effectivement ce qui s'est passé sur l'actualité 2023. Et en fait, derrière deux voyelles, hein, IA, mais ce qui cache en fait des IA, hein, il y a plein d'usages des IA. Celle qui a tout d'un coup marqué les esprits, c'est ce qu'on appelle les IA génératives, avec les fameux LLM, les Large Language Models, et qui permettent en fait de singer avec un semblant d'impression d'intelligence. Le fait que ça écrit comme des humains et ça pense comme des humains et ça génère donc du texte comme des humains. C'est ça en fait qui est le moment de bascule. Parce que sinon, des IA, il y en a partout. Hein. Il y en a par exemple qui vérifient les tâches des vaches pour faire les sièges des voitures de manière à ce que tu n'aies pas une tache de vache au milieu de ton siège, tu vois, et qu'elle soit cachée en dessous quand on découpe pour maximiser par exemple quand c'est des sièges en cuir. Bon, ben, est-ce que tu savais que ça faisait ça, l'IA? Voilà. Ça s'occupe des vaches. L'IA s'occupe aussi, par exemple, du trafic, de savoir d'allumer ou pas à un moment donné des feux rouges parce que les voitures sont comme les vaches, elles sont les unes derrière les autres. L'IA s'occupe aussi déjà depuis des années de la conduite autonome. La voiture, elle freine comme une vache qui freine devant un troupeau quand toi tu freines pas assez vite. Tu vois, ça, c'est des exemples d'IA déjà existants en fait. On a déjà de l'IA partout. Sauf que celle-là, comme elle se rapproche de l'humain, tout d'un coup, elle te m'emmène sur l'usage, elle emmène à l'usage de l'intelligence et de la production humaine, de ce que, bah, justement, on apprend à l'école, apprend à lire, à écrire et compter, et tout d'un coup, là, on panique pour ça. Voilà. Donc, c'est vraiment le point qu'il faut avoir en tête. Et que ces LLM sont finalement une étape en plus d'un grand parcours d'IA dans lequel, effectivement, on a de plus en plus de capacités. Les usages, finalement, si on repart de ces LLM, c'est qu'à un moment donné, on lui demande une intention et il génère un texte en sortie en ayant pris comme modèle des textes qu'on lui a donnés en très, 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 très grande quantité, donc le modèle de l'humanité, hein, Wikipédia, le web et tout ça, les journaux et toutes ces choses-là, mais également, pourquoi pas, ensuite, les informations de l'entreprise. C'est là où après, ou d'une organisation, c'est là où après, on bascule aussi dans le fait que ça peut remplacer. Bah, remplacer quoi? Remplacer des réponses quand on fait plutôt qu'avoir un moteur de recherche. Tu vois, hier, déjà, on trouvait ça incroyable. Avant, il fallait aller lire des livres, ouvrir page 117 pour avoir l'info. Après, on a eu le moteur de recherche. Tu vois, tu fais search, il te donne la réponse. Tu cliques sur le document et là, tu vois la réponse. On est d'accord, hein? Tu vois ça, on le fait tous les jours. Et donc, l'IA, c'est carrément, tu lui poses la question, elle donne la réponse issue du livre qu'elle te génère, y compris en faisant un lien entre la page 2 et la page 67. Parce qu'effectivement, il y a un lien entre les deux, et que ta question pose une question sur les deux, et elle te rapproche la page 2, 67, elle te les réécrit, et elle donne la réponse. C'est là où tout d'un coup, il y a une rupture épistémologique, on dirait. D'accord? Bon. Et partant de ça, partant de cette capacité générative, bah, en fait, on peut imaginer un nombre d'usages de dingue qui, en particulier, amène à, quelque part, avoir en permanence un assistant intelligent à côté de soi, mais vraiment à qui on parle, comme un stagiaire. Donc, le but derrière, c'est de se dire que chaque knowledge worker aurait son stagiaire personnel pour des questions personnelles, pour ce qu'il fait à l'entreprise et peut-être ce qu'il est en train de faire dans sa transition de carrière, pour l'aider en permanence dès qu'il a une question. Voilà. Hein, on fait du fact-checking avant d'aller sur Google. Demain, on fera du helping avec justement l'IA génératif que tu as avec toi. Et donc, on voit bien. Pourquoi il y a tant d'intérêt là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, si toi tu veux un stagiaire qui te fait des recherches, des compilations, et en plus avec un certain niveau, au minimum un stagiaire de chez stagiaire en France, ça coûte 500 euros par mois. Un stagiaire de type, allez, un Sciences Po, tu vois, un mec qui réfléchit, qui apprend plein de trucs, qui est malin, qui va voir plein de trucs, ou un Master 2 en communication, enfin, tu vois, c'est ce genre de profil aujourd'hui qu'on a. Voilà. Bah, je suis désolé, tu ne vas pas le payer 500 euros, hein, tu vas le payer beaucoup plus cher. Bah là, tu imagines cette valeur-là. Tout d'un coup, tu dis, ah, maintenant, on a une machine qui peut le faire à peu près.
Ils sont rapprochés, ouais.
Et donc, ce à peu près, voilà. Et ce à peu près, c'est toute la question. Et alors, c'est très, très drôle. dans une petite conférence où j'étais là, la semaine dernière, là, quelqu'un a dit un truc que j'ai trouvé génial et qui va moi qui montre toute l'angoisse, le paradoxe autour de l'IA. Il dit, attends, mais moi quand j'ai vu ça, attends, je l'ai essayé, mais je me suis dit, moi, un stagiaire comme ça, j'en voudrais absolument pas. À chaque fois, il faisait une erreur. C'était vraiment insupportable. Enfin bon, j'imagine bien qu'il y a pour remplacer plein de gens qui sont inutiles, qui ne sont pas meilleurs que ça. Et là, j'ai trouvé que tout était dit. C'est-à-dire que chacun en est face à ça en se disant, ouais, mais en fait, c'est pas parfait, ça peut faire des erreurs, il faut contrôler, etc. Mais enfin bon, on pense quand même que ça peut remplacer d'autres qui sont moins bons. Hein, c'est comme tu sais, quand les gens disent, tu sais qu'il y a 75% des gens qui pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Ce qui est formidable, tu vois, ce qui est formidable. Donc ça veut dire que les gens, en fait, se projettent en se disant, moi, l'IA, finalement, elle va pas me remplacer, c'est bon. Mais enfin, quand ils regardent, ils disent, ça va remplacer d'autres. Voilà. Tu vois, c'est ça le truc dans lequel on est. Ça, c'est pour les usages. Et après, je finirai juste en disant que ce que tu as raconté nous dit quelque part que la privatisation a gagné dans un premier temps. OpenAI est resté privatisé, ils n'ont pas devenu une, par exemple, une fondation, alors que ça aurait pu l'être. Qu'un Mistral, par exemple, est moitié open source, mais quand même, lève énormément d'argent, tourne sur Google et vaut 2 milliards. Donc ça y est, on est dans la financiarisation, donc on n'est plus du tout dans le mécénat. Mais que, à côté de ça, il y a des LLM open source qui sont en train de se mettre en place. Hein, faut saluer, par exemple, ce que fait Lina Gora en France pour OpenLLM. Et que ça, c'est un contrepoison à la privatisation. Et pourquoi je dis ça? Parce que il va falloir qu'on ait des IA avec des cultures différentes, parce qu'on voit bien que si ça devient des assistants pour nous tous, on a besoin qu'elles ne soient pas contrôlées par un seul cerveau, une seule logique, une seule pensée unique. Et donc, la diversité va être nécessaire, et en particulier, si c'est privatisé dans les mains de peu de GAFAM, ce sera pas, il n'y aura pas de diversité. On le voit bien. L'open source permet de redispatcher ça, et c'est comme ça que nous, par exemple, on a pu, lors de notre summit, montrer, en étant basé sur un modèle open source, qu'on pouvait avoir GemsGPT dans GenSpot, à laquelle on peut poser des questions. Voilà, parce que justement, il est différent et qu'on apporte notre culture. Donc, voilà, on finit l'année avec une sidération, comme rarement la technologie nous en amène. Et ça prouve qu'effectivement le numérique est vraiment au cœur de nos sociétés, parce qu'il est au cœur aussi maintenant de nos espoirs, mais aussi de nos angoisses.
Est-ce que, pour terminer sur le sujet, dans ce que tu disais, on sent vraiment une opposition assez forte entre justement le côté privatisation menée par Microsoft, voilà, qui détient, qui est l'actionnaire majoritaire de OpenAI, qui a failli récupérer d'ailleurs la majorité des têtes pensantes de l'entreprise au moment du drama avec l'entreprise. Google qui arrive également sur ce sujet-là. Et de l'autre côté, tu parlais des logiciels open source, voilà, où on ouvre un peu le scope et on met l'intelligence artificielle au service du plus grand nombre. Pour toi, il y a vraiment une opposition entre ces deux-là. C'est entre guillemets une guerre qui est déjà lancée ou
Ah oui, c'est une guerre qui est lancée dans lequel, par exemple, on va avoir, en particulier avec l'IA, c'est tout ce qui tourne autour de la question, par exemple, des droits. Les droits de propriété sont essentiels pour trancher ça, parce que sinon, on va se retrouver effectivement avec une privatisation de tout le savoir humain, et dans lequel, en fait, il n'y aura plus de reversement autre. Parce qu'il y a privatisation, mais aussi prédation. Enfin, tu vois, privatisation, c'est que bon, on confie à des intérêts privés qui essayent de qui payent quand même des gens pour faire des choses. Prédation, c'est je t'ai pris un truc qui n'était pas à toi et tant pis pour toi. Donc, par exemple, il y a des gens qui s'embêtent à fabriquer de la doxa autour du truc juridique. Bon, bah, OpenAI est rentré dans tous les documents, tous les livres qui parlent de tout ça. Il a pris tout ça. Il est capable d'être aussi bon qu'un juriste moyen, tu vois. Mais du coup, à qui doit cette intelligence? À des gens qui payent pas. Donc, le problème aussi, c'est la prédation, tu vois. C'est que le fait que pour entraîner ces modèles, il y a besoin d'informations en amont. Et ces informations en amont, bah, comment on les valorise, tu vois? Le blog que tu as écrit, par exemple, Benoît, tu vois, pour GameSpot, voilà, c'est une production de GameSpot. Alors, d'un côté, on est content d'être dedans, mais d'un autre côté, si demain ils font de l'argent avec ça, nous, bah oui, super, ils font de l'argent avec un truc que nous, on a produit. Bon, bah. Donc, ça pose un problème de prédation sur les contenus. Hein, encore pire que Google. Hein, parce que Google, même si au fur et à mesure du temps, il est devenu terrible, hein, mais avait comme vocation au départ, tu faisais un search, tu choisis ton site et étalé sur le site. Donc il amenait du trafic. C'est pour ça que finalement, il a un peu, il participait quand même d'un usage. Là, c'est, je te pose une question, j'ai la réponse. Est-ce que je vais sur le site? Ben non. Donc il n'y
Plus
a plus
besoin.
aucune, encore une fois, une prédation du web qui peut être amenée à finalement. Et donc lui, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que le web risque de se fermer. Parce que du coup, il y a des gens qui vont dire, hop, 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 mes bases, les gens inaccessibles à OpenAI, mais aussi aux humains. Et donc, on voit bien, c'est une espèce d'expansion des clôtures qui est en train de se mettre, parce qu'il y a des gens qui sont des prédateurs et qui font pas attention à l'herbe. Et donc, bah, voilà, tu dis, OK, bah, je mets des clôtures pour moi avoir un peu de gazon chez moi, quoi. C'est bon, ça suffit, quoi.
Merci beaucoup Alain, on enchaîne sur le prochain sujet. Je vous encourage, chers auditeurs, à aller écouter le troisième épisode d'Alternatives Numériques, justement, où la question des droits d'auteur a été abordée par Mathieu. Donc l'un des trois invités dont Alain fait partie. Voilà, on y parle d'intelligence artificielle, la question justement de ce que Mathieu disait par rapport au risque, par rapport aux droits d'auteur, donc ce que t'expliquais Alain à l'instant. Donc je vous encourage à aller écouter l'épisode. Il est disponible bien entendu sur la chaîne Les Voix du Digital. L'intelligence artificielle n'est pas la seule à nous proposer son lot de rebondissements quotidiens, Alain. Et non, je sais que je te surprends. Le DMA, donc qui est le Digital Market Act, dont on a souvent parlé, hein, l'un des deux textes de loi avec le DSA qui a été déployé cette année, en 2023, par l'Union européenne. Lui aussi, il provoque aussi quelques remous, puisque deux géants du numérique ont été, d'après les sources que j'ai pu lire, les premiers à contester le texte européen, mais non pas juste en disant, bon voilà, ça ne nous plaît pas trop, mais devant la justice européenne, donc de manière officielle. Meta, d'un côté, donc la maison mère de Facebook, et de l'autre, TikTok, voilà, la filiale du groupe chinois ByteDance, qui d'ailleurs, je crois, est l'application la plus téléchargée, la plus utilisée dans le monde, je crois, ça a été en 2023, ça a été validé. Donc Meta, de son côté, remet en cause l'inclusion de sa messagerie Messenger et de sa plateforme de petite annonce Marketplace. On rappelle, hein, Digital Market Act, les gatekeepers. Vous êtes un gatekeeper, vous devez respecter certaines règles. Alors, je ne me souviens plus exactement des détails, mais c'était si le chiffre d'affaires annuel dépasse les 7 milliards de dollars, je crois, ou d'euros. Également, il y avait également quelque chose par rapport au nombre d'utilisateurs, enfin au nombre de collaborateurs. Toujours est-il, voilà, Meta de son côté dit non, Messenger et ma plateforme de petite annonce, c'est pas normal. Ça ne devrait pas être concerné par le nouveau cadre réglementaire du DMA. Et TikTok, quant à lui, qui estime complètement que la Commission européenne n'aurait pas dû le désigner comme gatekeeper, car l'application en question ne réalise pas 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent européen. Donc, comme je le disais, qui est l'une des prérogatives. Alors, on rappelle, le DMA est entré en vigueur cette année, Alain. Les réactions, du coup, se multiplient du côté des géants du numérique. On avait parlé d'Amazon et d'Apple, je crois, le mois dernier.
Oui,
Voilà,
voilà, on a déjà parlé de ça.
exactement. Le fait que le DMA soit, on va dire, challengé de la sorte, est-ce que c'est quelque chose dont il faut se réjouir? Ça montre l'impact, alors peut-être futur, hein, sur le numérique européen du texte, ou est-ce qu'il faut s'inquiéter, entre guillemets, de voir ces grosses entreprises, disons, jouer sur les mots et tout faire pour ne pas être concernées par ce nouveau texte.
Bah, quand on est dans la justice, on joue avec les mots, on joue avec sa vie. Donc là, voilà encore un bon exemple qui n'est pas un esprit de Noël. C'est clair. Ils n'ont pas pris le DMA comme un cadeau, nos amis GAFAM. Et effectivement, c'est intéressant, GAFAM, hein, d'accord, quand on regarde, globalement, ils sont tous en train de le contester. Bon. Donc là, on a eu Amazon, Apple, là, on a Meta et TikTok. Bon, super. Et Microsoft, en fait, lui a échappé au DMA pour Office 365 et tout le monde n'a toujours pas compris pourquoi. Et c'est totalement. Voilà, ils sont passés. Ils ont eu les meilleurs lobbies. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils ont été les meilleurs là-dessus. Bravo. Mais les autres, du coup, ils couinent et ça prouve un truc. Ça prouve que le DMA les dérange. Parce que sinon, ils diraient, je laisse passer. Hein, voilà. Je rappelle que sur le RGPD, par exemple, il n'y avait pas eu trop de réaction parce qu'au départ, ils étaient persuadés qu'ils allaient passer à travers les gouttes. Ils pensaient que l'Europe ne serait pas capable de mettre en place la loi. Hein, en fait, hein. C'était ça qui avait été écrit, moi j'avais l'idée. C'était plutôt ça leur hypothèse interne. Pas de chance, le RGPD, l'Europe arrive à se mettre d'accord, passe la loi, commence à leur mettre des amendes, voire même les empêche de faire des accords transatlantiques. Donc, qui, après, ils ont dit, oh, mince, l'Europe, oh, mince, la vieille dame, en fait, elle sait faire du jujitsu, et c'est pas cool. Normalement, toi, t'arrives, tu le piques son sac à main, c'est ce que font les GAFAM, et puis la vieille dame a fait, oh, a pris l'argent. Et puis hop, et voilà, et donc c'est fini. Bon. Et donc, c'est ça, hein, l'Europe est une vieille dame à qui les
C'est
États-Unis
une métaphore
prend son
intéressante,
sac avec l'argent. Ouais, régulièrement, d'ailleurs, en plus, hein, on est racketté tous les jours. Dès qu'on descend prendre du pain, hop là, et hop, on descend faire un search sur Google, hop là, voilà. Bon. Par contre, du coup, là, ce qui se passe, c'est que là, ils essayent avec des arguments juridiques, et on va voir, c'est la deuxième manche, hein. Est-ce que, effectivement, ça nous est arrivé des fois dans l'Europe, hein, est-ce que la justice européenne va être clémente, et dans ces cas-là, on aura tout perdu, ou est-ce qu'elle va être précise, et dans ces cas-là, effectivement, là, on va montrer que il fallait pas tout simplement jouer avec cette histoire de gatekeeper. Donc, je sais pas s'il faut le poser en question, est-ce qu'il faut se réjouir ou pas. Tu vois, c'est comme si je te disais presque, tu vois, c'est un test, c'est un peu comme, tu sais, quand on fait des tests pour voir si les banques vont défaillir ou pas. Donc, tu sais, on fait des stress tests. Bon, bah, c'est un peu ça. Pour moi, c'est plutôt un stress test pour l'Europe. On pourra se réjouir si, effectivement, Meta, ByteDance, Apple et Amazon sont remis dans la niche. S'ils s'en sortent tous indemnes, et qu'est-ce qui restera du DMA? Rien. Et on aura juste gesticulé pour rien. Je suis pas non plus à dire c'est ça qui va se passer, hein. Tu vois,
Oui,
justement,
bien sûr.
je suis plus à me dire c'est un moment un peu un moment de vérité. Donc dans ces cas-là, on s'en réjouit pas, on se désespère pas, on est plutôt à retenir son souffle, on est en apnée.
Mais on peut en tout cas se dire que c'est un bon début de voir en tout cas les plus grosses entreprises du monde. Je rappelle que TikTok est chinois, hein, tous les autres sont américains, donc c'est qu'il y a une relation pas conflictuelle, mais généralement c'est les entreprises américaines sont les premières à réagir à nos textes de loi. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup d'entreprises chinoises qui se sont inquiétées de nos textes, donc.
Ah mais nous, quand on a un texte de loi américain, on n'attaque jamais quoi, les Européens, on n'attaque pas les Américains. Enfin, c'est justement c'est là où tu vois, je peux pas me. En même temps, c'est oui, c'est quelque chose d'anormal quand même, tu vois. C'est-à-dire que dès lors qu'on met un texte, ça y est, ils le contestent quoi. C'est des. De toute façon, ils sont dans une posture adolescente. C'est des adolescents, hein, Meta. Hein, on va dire. Donc c'est dans le genre. Écoute, là, il faut que tu ranges ta chambre. Non, je range pas ma chambre. Moi, ma chambre ne doit pas être rangée. Une chambre doit être rangée. J'ai fait un texte de loi. Non, je conteste ce texte de loi. Une chambre, c'est pas une chambre. De toute façon, moi, c'est pas ma chambre. Ouais, gna, 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 ouais. Il y a un côté, à un moment donné, après, on va dire oui, mais c'est normal de contester, c'est juridique. Non, il y a un moment, franchement, on est vraiment face à une mauvaise foi aussi de la part des GAFAM là-dessus. Voyons voir si, encore une fois, est-ce que le parent européen arrive à calmer l'adolescent gaffamique ou pas?
J'aime beaucoup quand quand tu files les métaphores comme ça, la vieille dame, l'adolescent, peut-être qu'on arrivera au bébé avant le, tu vois, c'est Benjamin Button.
Mais non, on y vient. Attends, sur le prochain sujet, moi j'ai un truc pour toi aussi, parce que ça m'a. Je te remercie de l'avoir sélectionné, celui-là. Il était passé à travers ma veille, donc c'est vachement intéressant. Vas-y, lance-le,
Ah bah
parce que
oui,
tu vois, j'ai vraiment un
justement.
truc. Voilà.
Justement, j'y viens parce que
Tu vois.
même moi aussi j'étais très content de le trouver, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Donc, de quoi parlons-nous, chers auditeurs? On parle du rapport Data et Territoire qui a été rendu public durant le mois de novembre dernier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rapport? Bah, c'est en avril dernier, en avril 2023, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, a confié à trois responsables politiques, appuyés par la DINUM, la mission d'identifier les opportunités de renforcement de l'exploitation des données par les collectivités territoriales. Voilà, j'ai cité la source, vous en doutez bien. Donc voilà, comment mieux exploiter les données dans le cadre des collectivités territoriales, voilà, pour les mettre à leur service. Le rapport a été rendu, il comprend 22 recommandations. La question de fond du rapport était comment l'action publique territoriale peut mieux se saisir des données numériques pour en exploiter les opportunités face aux enjeux sociétaux actuels. Voilà, si je résume globalement. Donc les 22 recommandations qui sont sorties de ce rapport, je vais évidemment pas toutes vous les présenter ici. Je vous mettrai le lien en description de ce podcast si vous souhaitez approfondir le sujet, comme toujours. Mais on a 22 recommandations qui sont réparties en 6 axes. Parmi elles, j'en cite plusieurs. La mise en place d'une gouvernance pour faciliter le dialogue État-collectivité sur la donnée. C'était l'un des points du rapport, c'était que l'État, le dialogue entre l'État et collectivités n'est pas assez appuyée sur la question numérique. L'amélioration de l'accès aux données pour les collectivités, voilà, c'est le cœur du sujet, hein, c'est comment on va avoir mieux accès à la donnée et mieux les traiter. Et le dernier point, la création d'un programme d'échange de type Erasmus, voilà, pour les agents de l'État et des collectivités travaillant dans le domaine des données pour renforcer les échanges entre les deux parties. Là aussi, on est encore dans le domaine des échanges quotidiens, de savoir de quoi l'autre a besoin et un meilleur travail collectif, un meilleur travail de cohésion. Alors, le sujet de l'alignement entre l'État et les collectivités territoriales, c'est un sujet que tu connais, c'est pas, qui n'est pas du tout étranger, et qui est important dans le cadre de notre travail d'éditeur de logiciels, parce que je rappelle que nous ne sommes pas journalistes, on traite de l'actualité numérique, on prend le plaisir à le faire, mais nous ne sommes pas journalistes, on est éditeur de logiciels collaboratifs avant tout. Est-ce que tu peux expliquer d'abord pourquoi c'est un sujet, comme je le disais, central pour les éditeurs de logiciels que nous sommes, et dans un second temps, ce que tu as tout simplement pensé du rapport, ce que ça t'évoque?
Il y a deux dimensions pour moi. Alors là, pour le coup, une, on peut se réjouir et l'autre, sur laquelle on peut se désespérer. Ou en tout cas, s'interroger. Oui, pour éditeur de logiciel, pourquoi les données sont importantes? Parce qu'à un moment donné, typiquement, il faut structurer l'information. Et si elle est pré-structurée en amont, parce qu'on a des informations en amont, effectivement, généralement, on fait des meilleures choses. Nous, d'ailleurs, on est déployé par la ANCT, l'Agence nationale de cohésion du territoire, qui relie justement tout l'État déconcentré qui fait les actions locales. Mais en fait, il y a effectivement l'importance d'avoir des ontologies. Tu vois, alors, on parle de données, c'est des ontologies, c'est-à-dire dans quelle catégorie je vais ranger, par exemple, une association. Est-ce qu'elle est pour le social? Est-ce que des enfants? Quelle est sa taille? Tu vois, énormément d'informations de data qui permettent ensuite de pouvoir faire des tris et, par exemple, d'être capable de faire de la segmentation, de faire du ciblage, de faire justement de l'appariement pour mettre les gens ensemble, en Rhône-Alpes, qui dans le Poitou, les mettre en relation parce que justement, ils ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, toute cette information-là, en tant qu'éditeur logiciel, plus on se rapproche effectivement de structures dans lesquelles il y a des gens hétérogènes, plus on a besoin de données pour justement préalable pour irriguer et pas que les gens soient obligés de ressaisir leurs données. Il y a aussi ça. La deuxième dimension, c'est celle effectivement de la prise de décision. Un maire qui n'a pas de données sur la circulation dans sa ville, il ne peut pas savoir ce qu'il doit faire. Alors après, il peut le sentir, hein, et puis essai-erreur, il ferme une route, c'est parce que c'est une catastrophe, etc. Bon. Voilà typiquement des données hyper importantes, les plans de circulation de ville. On pourrait donner aussi celle de l'évolution. Moi, j'ai découvert avec effarement, par exemple, comment une ville même, tu sais, moi je suis à Montreuil, comment est-ce que l'État pilote les écoles? En fait, on ne sait pas les enfants qui vont arriver, combien il y en a, donc en fait, bon, des fois on a des estimations, mais c'est à la louche, quoi. Donc, alors après, on court après, les écoles sont trop pleines, des fois, alors c'est rare qu'on n'en fasse pas assez, mais enfin, tu vois, on est toujours. Donc les datas sont essentielles pour qu'ensuite on puisse mettre en particulier des systèmes d'information qui vont être performants. Bon, mais par contre, ce que ça montre ce truc, c'est que ça commence par le dialogue et ça finit par le dialogue avec les échanges Erasmus, parce que oui, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une coupure entre l'État et les collectivités territoriales. Enfin, je veux dire, c'est alors tu nous as envoyé au fait qu'on n'est pas des journalistes. C'est vrai que la dernière fois que le président a été devant les maires, il s'est moitié fait huer. Bon, il y a un truc aujourd'hui dans l'État qui n'arrive pas à finalement cranter avec les collectivités territoriales parce qu'ils les connaissent pas. Il y a une espèce de déconnexion et cette déconnexion plutôt sociétale, quoi, de gens qui ne vivent pas cette situation-là, tout simplement, elle se retrouve après quand on décline des politiques. C'est pour ça que, effectivement, quand les gens font un travail d'introspection, ils finissent par dire, bah ouais, on est comme nous, on connaît pas les Slovènes, on sait pas comment fonctionnent les Polonais, bah on va faire Erasmus pour que nos enfants construisent l'Europe par les relations qu'ils vont faire culturelles. Et je t'avoue que ça m'a, en même temps, je me dis, bah ouais, c'est ce qu'il faut faire, mais ça me paraît dingue qu'on en soit là. Alors qu'on parle de quoi? On parle de la France, on parle de gens qui sont effectivement plutôt concentrés à Paris, et qu'ils ont juste besoin à faire de 150 km et ils sont dans la campagne et ils verraient comment ça se passe, quoi. Ça m'a complètement renvoyé une image de séparation aujourd'hui entre bah, justement un État centralisé et les collectivités. Et donc, effectivement, du coup, les data bah, pâtissent de ça, évidemment aussi.
Est-ce que toi, du coup, quand tu vois les recommandations du rapport, tu te dis, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est, bon, on en est là, ça aurait dû être fait. En fait, ça montre bien l'écart qu'il y a entre la réalité du terrain et ce que peuvent s'imaginer les gens qui ne connaissent pas la situation. Est-ce que tu es quand même confiant quand tu vois le rapport, ou tu te dis, bon, mieux vaut tard que jamais, mais c'est pas ça qui va changer la situation? Qu'est-ce que t'es plutôt optimiste ou
Bah, là, pour le coup, c'est le maçon au pied du mur, hein, parce que les 22 recommandations sont globiches, tu vois, il faut du dialogue, il faut améliorer l'accès aux données, enfin, je veux dire, qui a envie de dire, alors, je vais te faire 22 recommandations différentes, il faut plus que les gens se parlent, il faut détériorer les données,
Le numérique, on s'en
il y a un
fout.
programme d'accompagnement, le numérique, on s'en fout, et puis l'accompagnement, c'est, faut surtout pas former les gens. Donc le programme, c'est ne pas former les gens. Et le dernier point, c'est amener les financements. Donc le programme, c'est il ne faut pas donner d'argent pour un truc qu'on veut faire. Bon, c'est-à-dire que quelque part, il est très, pour moi, ce qu'on appelle wishful thinking, c'est-à-dire qu'il te donne des éléments structurels. Vu qu'on est dans un thème IA, il aurait pu être un peu généré par justement ChatGPT, à qui on aurait dit, peux-tu donner un plan sur data et territoire en cet axe? Et j'en suis sûr qu'il aurait dit formation, accompagnement, financement, parce qu'il n'y a aucun plan de déploiement où il n'y a pas besoin de formation, accompagnement, financement. C'est juste, du coup, on voudrait voir concrètement. Et à la fin, on dit, et on verra ce que le ministre en question prendra comme décision. Donc, j'ai envie de dire, une fois qu'il sait que maintenant, c'est un sujet clé, il sait que il faut effectivement le faire. J'ai envie de dire que tu vois, s'ils mettent pas de financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, ça prouvera juste qu'effectivement ils veulent encore être coupés et ça les intéresse pas. Au niveau central, ce qui les intéresse, c'est le nombre de chômeurs au niveau global, parce que tu veux, ça c'est important à la télé aux 20 h, mais que les données de circulation du centre de Montreuil, ça les intéresse pas, parce que de toute façon c'est le maire qui va gérer ça. Tu vois, c'est ça au fait le fond, tu vois. Et donc, on retrouve toujours cette question, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la logique de commun, les données en commun, et ben c'est aussi le bien commun. Voilà. Le bien commun, aujourd'hui, il devrait ne s'affranchir de la question si c'est l'État ou les collectivités. Pour moi, il devrait totalement s'affranchir de ça.
Merci beaucoup Alain. Alors sans transition, je te propose qu'on a dépassé les 30 minutes d'enregistrement. Et oui, déjà. Donc c'est normal, hein, c'est le dernier épisode de l'année, donc
C'est Noël.
on s'octroie le plaisir de dépasser un petit peu.
Le repas de Noël dure toujours généralement plus longtemps que le repas d'une
Ah
semaine
oui, alors ça,
ordinaire, hein, je sais
je
pas
te le
pour
fais. Oui,
toi,
non, je te le fais pas dire. Oui, ça, je veux dire le temps de manger l'Adin, le fromage, le dessert, etc. Généralement, c'est. Ça dure un peu plus longtemps que le repas du dimanche midi.
voilà.
Alors, je te propose comme de passer du coup au dernier sujet de notre émission avant d'aborder le sujet mystère du mois, bien entendu. Donc, vous le savez, on parle à droite à gauche, pas tout le temps, mais quand même assez régulièrement des startups dans Au-delà du live. Quoi de plus normal quand on parle de numérique, bien sûr. Et pour ce dernier épisode de 2023, on a tenu à vous partager voilà, un petit florilège des startups qui nous ont tapé dans l'œil. De par leur proposition de valeur et qui le méritent bien, voilà, donc qui sont des startups que vous gagnerez à connaître et à suivre également en 2024. Alors, on en a sélectionné trois. Voilà.
Trois, ouais, je peux peut-être un peu te donner pourquoi
Ah, mais avec grand plaisir, mais je
et
t'en prie,
un peu
voilà,
le,
au contraire,
voilà.
explique-nous.
Alors, voilà, et le pédigré, donc ils sont effectivement. En plus, ces trois, justement, on est 2023, c'est l'année des bootstraps, hein, parce que justement, les licornes, elles ont un peu mal aux genoux, comme je dis souvent, avec les problèmes de refinancement, et puis cette logique un peu d'hypervalo qui était un petit peu dans notre monde numérique, qui commençait à poser problème. Donc là, il y a un peu, du coup, maintenant, ils sont plutôt en difficulté, et apparaissent ceux qui sont beaucoup plus résilients, qui sont les boîtes bootstrap. Donc, en particulier, il y a un club, d'ailleurs, dont je fais partie, qui s'appelle le club bootstrap, hein, dont je fais le. À la fois, je salue tous les membres, les fondateurs, hein, Mathieu Lolan et Caroline Payou, mais également tous mes, parce que j'en fais partie, tous mes partenaires. Et là, il y a trois boîtes numériques, moi je trouve assez incroyable, que justement par ce qu'elles apportent, que je voulais juste mettre en avant. La première, c'est Context, une boîte qui a réussi à passer à plus de 7-8 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années sur un média numérique, et qui est en fait le média qui s'occupe de comment se construit le pouvoir en France. hyper intéressant le contexte. Il est décliné par secteur, quoi, santé, numérique, etc. Et donc, ils expliquent finalement les prises de position, des lobbies, des politiques, la loi, comment ça se fait. Et donc, du coup, la construction de la loi, et donc, c'est vraiment un média très ciblé, 100% numérique, 100% autofinancé avec des journalistes. Donc, comme quoi, on peut, un, à l'ère du numérique, faire de l'argent avec un média, deux, être justement en plus centré sur quelque chose qui est un bien commun, qui est autour de ça. Voilà, donc, chapeau à Jean-Christophe Boulanger, son fondateur. Deuxième, que je voudrais mettre en avant, c'est Hello CSE. Les CSE, vous savez, les comités d'entreprise, hein, voilà. Parce que là, pour le coup, voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les CSE à grandir? Voilà. Voilà. Tu vois, bon. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon truc. On se disait aussi, ça fera pas d'argent, un truc comme ça, etc. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 millions d'euros presque par an. Donc, chapeau, lancé en 2017. Hein, Laurent Lefebvre, le CEO de Hello CSE, là aussi, 100% numérique. Bon. Troisième exemple, alors lui, il dépasse tout. Je sais même plus ses chiffres, tellement ils sont incroyables. C'est Superprof, une application que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà utilisée, B2C, là, pour le coup, pour trouver un prof, justement. Et c'est les parents et les adultes qui payent en fait l'accès à Superprof pour avoir accès à des profs qualifiés. C'est totalement dingue parce qu'aujourd'hui ils sont dans plus de 30 pays. Ils ont réussi à conquérir les États-Unis. C'est quand même,
C'est pas rien.
enfin, moi je trouve ça c'est pas rien. Tout ça en bootstrap. Et donc son CEO qui est quelqu'un en plus qui a une énergie, une espèce de force comme ça vitale. C'est Wilfried Grainier, donc d'ailleurs dans le club, on s'appelle cousin, parce que moi, Garnier, Grainier, donc c'était la blague. Voilà, bon, voilà, on a les blagues qu'on a. Mais donc je salue, salut cousin, parce que c'est un exemple typique de réussite en France qui s'exporte à l'international dans le numérique, parce qu'encore une fois, c'est pour trouver un prof après dans la vraie vie, mais dans le numérique. J'ai pris ces trois éléments-là parce que finalement, les trois, ils ont un rapport avec le vrai monde, hein, la loi, les comités d'entreprise et donc le dialogue social, quelque chose qu'il faut remettre de manière positive, et apprendre avec des profs, parce que derrière, il n'y a que des profs hein, chez Superprof, pas de l'IA. Et tout ça avec du numérique et qui fabrique des magnifiques boîtes qui grandissent justement en essayant de construire un avenir meilleur du numérique. Et donc, tu vois, ça nous met loin, loin, loin un peu des fois de l'écume qu'on entend, les trucs autour du numérique, où là, il y a encore une fois de la valeur sociale qui est créée. Un des trois exemples, pour moi, il y a une valeur sociale qui est créée à travers ces logiciels. C'est pas que des boîtes qui vendent des trucs, c'est des boîtes qui aident notre société avec contexte pour mieux comprendre pourquoi les gens décident, pourquoi voilà, encore une fois, le dialogue social ou apprendre à ses enfants de la musique ou se mettre au chinois pour les adultes qui veulent se faire. Voilà, c'est quand même des choses qui nous tirent vers le haut, ces trois boîtes, donc je voulais les saluer en cette fin d'année. C'était ça aussi l'esprit de Noël.
Mais écoute, merci beaucoup Alain. Alors tu disais oui, c'est parce que les chiffres m'ont aussi un petit point pour compléter ce que tu viens de dire. Parce que moi aussi les chiffres de Superprof m'ont complètement estomaqué. Superprof, c'est une communauté de 26 millions de professeurs indépendants dans 50 pays et qui dispense quelques
Ouais, tu vois,
2500
ouais.
matières à 38 millions d'élèves, dont 2 millions en France. Voilà.
Tu vois pourquoi je voulais pas donner les chiffres, ils sont tellement huge, tu vois, effectivement, tu vois, merci, t'as été faire mieux, t'es de voir que moi, c'est dingue quand même, quand tu vois effectivement ce que ça l'impact que
Ouais,
ça
c'est
a.
vraiment incroyable. Et effectivement, ce que tu disais, ce que je trouve intéressant avec ces trois startups, c'est que on sort un peu trop du domaine de la valorisation financière qui a été accolée justement au statut de licorne, hein, qui était la stratégie du gouvernement il y a quelques années. Et on est vraiment sur des entreprises qui, comme tu le disais, et tu l'as très bien expliqué, créent de la valeur sociale. Donc ça, c'est le numérique au service de la vraie vie,
Et
c'est un petit
qui du
peu.
coup ont de la valeur, et qui ont de la valeur, voilà,
Et qui ont de
justement,
la
ça
valeur.
crée aussi de la valeur, voilà, c'est tout simplement. Donc, ouais, je suis très content Tu vois, donc on met en avant, merci aussi de mettre en avant comme ça des boîtes. Alors on dit start-up, d'ailleurs, ça devient presque aussi des PME au bout d'un moment, il ne faut pas avoir
Oui,
honte de ça, ou des
c'est vrai.
ETI, enfin, des entreprises. Mais bon, on va dire que les PME de la tech, ouais, on les appelle start-up. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est la petite coquetterie qu'on a tous, tu vois.
Exactement. En tout cas, voilà, trois startups ou PME, c'est au choix. Si vous souhaitez donc suivre la construction de la loi française, avoir des
Exactement.
informations sur justement des offres qui destinées au comité, au CSE, au comité socio-économique, ou justement trouver des profs indépendants pour vos chérubins, eh bien, vous savez justement vers quelle entreprise française vous tournez. Merci beaucoup, Alain, d'avoir présenté ces trois entreprises, ces trois très belles structures pour le coup. Et bah, je te propose de clôturer ce 36e épisode de la Du Live avec
Et
le
oui.
traditionnel sujet mystère. Voilà le dernier sujet mystère de l'année pour le coup. Alors, de quoi
Un
s'agit-il?
vrai cadeau.
Attention, attention, de quoi s'agit-il? Simplement, l'école Mines Paris, donc PSL, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant de trouver cette information dans les médias, donc qui est une école spécialisée dans l'enseignement et la recherche des sciences ingénieurs, a officialisé il y a peu la création d'un institut des transformations numériques, ITN, un institut qui ambitionne d'accompagner des projets innovants basés sur ses recherches dans les sciences et évidemment dans les technologies. Donc c'est des actions qui seront déployées dans le cadre d'un programme scientifique qui est décliné en trois axes. Le premier, l'ingénierie numérique, donc avec la prise en compte de la modélisation, de la simulation et du contrôle des systèmes complexes. Le deuxième axe va concerner quant à lui les industries culturelles et créatives, comme le traitement des images et des données, et également les technologies immersives. Et enfin, le dernier volet est pour sa part dédié à la santé numérique, donc en particulier à l'ingénierie pour la santé, la bioinformatique et la gestion des parcours de santé. À préciser aussi, c'est important que l'école entend également accompagner le passage à l'échelle des startups vers l'industrie de masse. C'est très bien vu qu'on en parlait à l'instant. Donc voilà, vraiment, elle entend se positionner, si tu veux, en lieu d'influence, avec en particularité d'être en interaction forte avec la société, pour éclairer le débat public et accompagner les choix des décideurs sur les transitions technologiques à venir. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet, vous savez, j'aime bien expliquer un peu le pourquoi je choisis tel ou tel sujet. On a un lieu qui est dédié du coup à l'éducation, dont l'ambition est de faire le lien entre start-up, décideurs et grand public. On le sait aujourd'hui, le numérique, ça va très très vite, c'est ce qui caractérise le secteur, hein, c'est l'innovation, ça va à 2000 à l'heure. On l'a dit en introduction, c'est facile de perdre le fil. Voilà, c'est facile d'un peu de. Notamment, on le voit en ce moment, plus que jamais avec l'intelligence artificielle, hein, c'est très très difficile de suivre le cours des événements. Donc, avoir une école qui se propose de mettre en lumière et de réunir tout le monde autour des projets technologiques de demain, bah, moi je dis chapeau. Voilà, je trouve que c'était une très belle ambition. Et c'est le sujet que je voulais te partager aujourd'hui, Alain.
Et ben, écoute, tu fais bien. De toute façon, c'est intéressant. Bon, le renommage, hein, les mines de Paris, hein, qui effectivement est prestigieuse, d'aller vers cet institut et de remettre ben, finalement le citoyen au cœur finalement de la proposition de valeur et de se dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Tu vois, les trois startups qu'on a
C'est ça.
données mettent à un moment donné nos parcours de vie qui nous font grandir au centre. Ben, là, c'est pareil. C'est qu'effectivement, qu'on n'est pas juste des startups parce qu'il y a de la techno pour faire des choses. Donc, soit pour les systèmes complexes, ça renvoie tout ce qui est image, etc. Il y a aussi l'IA derrière, la santé numérique. Qu'est-ce qu'on fera de notre corps demain quand il sera effectivement numérisé pour être en meilleure santé? Je pense qu'il y a des questions éthiques, des questions intimes qu'il faut effectivement embrasser. Donc, je suis d'accord. C'est, tu vois, tu m'offres pour Noël la réunification de trois mondes qui sont peut-être un peu découpés, tu vois, les startups qui font des trucs dans leur coin en se disant ça va être bien pour tout le monde, mais sans leur demander des fois. Les décideurs, tu vois, on a vu l'État qui était un peu coupé des fois
Oui, de
de
la
ces
réalité.
territoires. Les grands publics qui voient arriver ça souvent, comme Madame Michu au journal de 20h, en ayant l'impression de ne pas avoir la main. Donc, effectivement, rapprocher tout ça, je pense que, tu vois, c'est comme justement les fêtes de Noël où on réunit les familles. Des fois, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes avis. Tu vois, les fameuses images d'Épinal du tonton un peu bizarre dans la famille. Tu vois, qui est une image d'Épinal, mais qui reste. Voilà, on a une famille qui est toujours de toute façon pas centrée sur soi. Elle est centrée sur justement d'autres liens. Bah, donc, effectivement, c'est pareil pour le numérique. Peut-être des fois qu'il soit centré un peu moins sur lui et un peu plus sur la société.
C'est ça. Donc tu es satisfait de ton cadeau, c'est ça que je dois comprendre du coup.
Mais oui, merci Benoît. Écoute, un très beau cadeau ce 36e au-delà du live. Écoute, magnifique. Tu vois, là, je vois l'heure, effectivement. Tu vois, il nous fallait ce temps-là, effectivement, pour déballer tous ces
Oui,
cadeaux.
c'est clair. Bah, de toute façon, si tu veux, le sujet à la une, quand le sujet à la une, c'est l'IA. Bon, l'IA, on aurait pu faire évidemment un sujet, un épisode complet dessus. Donc, je me doutais bien que, voilà, de toute façon, on l'a dit, l'épisode de Noël, c'est comme les repas de famille, ça dure plus longtemps. Pour le meilleur ou pour le pire, on vous laisse décider.
C'est ça.
Je laisse à chacun le soin d'en juger. Mais en tout cas, écoute, merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec moi pour ce 36e épisode. À nouveau, ça a été, comme d'habitude, un plaisir.
Écoute, merci. Merci pour toute cette année avec parce que je ne veux pas le dire, mais je crois que ça doit être notre dernier podcast du coup de l'année. Hein. Il reste un petit au-delà des. Bonjour les spotters, pardon, vendredi.
Exactement,
Je
ouais,
vais aussi faire une petite
c'est
rétro.
exactement ça. Un dernier épisode de Bonjour les spotters, et effectivement, après celui-là, ce sera du coup la fin des podcasts des voix du digital, en tout cas pour l'année 2023. Bien évidemment, on sera de retour en 2024 avec les formats et les émissions habituelles que vous connaissez tous. Bonjour les spotters, au-delà du live, Alternative numérique, encore une fois, que je vous invite à écouter. Voilà, ça a été un plaisir de. Merci encore à Valentin et Mathieu de nous avoir rejoints pour cet épisode-là. Alternative numérique, c'est l'actualité du numérique vue par les entrepreneurs. Et comme les entrepreneurs sont des gens occupés, on l'a vu avec les startups, hein, dont on a parlé à l'instant. Les réunir, c'est pas toujours évident, mais quand on les réunit, on est content de l'avoir fait pour le coup, c'est toujours très très intéressant. Donc je vous invite évidemment à aller écouter le troisième épisode d'Alternative Numérique, et on vous proposera bien sûr de nouveaux formats et de nouvelles émissions pour 2024. Donc comme on ne se reparlera pas d'ici là, je pense qu'alors on peut souhaiter à tous nos auditeurs d'excellentes fêtes de fin d'année, je pense.
Mais oui, on peut, voilà, profitez bien, voilà, justement, déconnectez-vous, voilà, aérons-nous, voilà, et faisons des gros bisous aux rennes que vous croisez sur votre chemin.
Exactement, exactement. Donc bonne fête de fin d'année à tous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas que tous les épisodes, toutes les émissions sont sur la chaîne Les Voix du Digital, bien sûr, ça ne bouge pas. Et je vous donne rendez-vous en 2024 pour de nouveaux épisodes au-delà du live et de nouveaux podcasts en règle générale. À bientôt.